dans l'espace.
Jean-Claude, je te reconnais bien là.
Mais il y a Curie qui parle.
C'est la machine, c'est la machine qui fait sa censure. Bon.
Bon alors qu'est-ce qu'on fait? On essaye ou on n'essaye
oui,
pas?
Oui, 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 oui. Allez, quoi la chose?
Bon, pour moi, c'est complètement entrecoupé. Pour vous, je ne sais pas.
Mais on t'entend, cause.
Bon, très bien. Alors, j'essaye et puis, ben, si ça coupe, ben, voilà, on est tous complètement navrés. Et puis, Barbara essaiera aussi très vite. Donc, je disais simplement que qu'il faut faire très attention.
De la machine coupure et flux.
Ouais, vous êtes comme ça.
Oui.
Quand il y a la coupure, on le sent. Et maintenant, il n'y aura plus. Et si le flux venait de Cécile?
Fais-toi dire par Mel qu'est-ce
qu'il y a de choses
que tu
as. Il y a des chants.
Je veux pas le micro.
Il y a des chants qu'on n'entend plus. Des chants, des chansons, des musiques, tout en musique. Le tout qu'on n'entend plus, ça passe d'un côté puis d'un autre de notre vie, de notre corps. Notre corps n'entend plus rien. Le corps mis en musique, la vie qui n'entend plus, pas une seule note pour elle ou lui, pas une seule qui pénétrera la vie de ce corps. Pas un seul son, une seule note. Il y a comme ça des notes ou des chants, ou des notes ou des chants qu'on connaît bien, mais on les connaît trop bien, on sait trop à présent ce que ça veut dire, ce que ça représente pour nous. Pour nous, c'est l'irreprésentable, on veut plus se placer devant tel chant ou tel son, encore telle musique, toujours la même. Ça, on peut plus terminer, on veut plus avoir affaire à ces chansons, c'est le corps qui réagit comme ça, le corps fait la sourde oreille. Dans son entièreté, le corps refuse d'un bloc tout son ou toute musique, celui ou celle qu'il connaît bien, il connaît que trop bien. Il connaît depuis trop longtemps ses sons, ses musiques, ses chœurs, ses larmoiements ou ses morceaux moins faciles, mais devenus trop faciles, maintenant le corps n'en peut plus. Il s'est trop gavé. Alors, il peut, le corps, s'il le veut, mettre tel son, faire passer telle musique. Il le peut, mais il restera hermétique. Ça sera juste un geste coutumier, c'est le geste qui restera. Seul le geste compte. Car il est rempli d'habitudes. Le corps se nourrit d'habitudes, mais ce sont des habitudes de gestes. C'est toute une gestualité, comme une gymnastique journalière. Le corps a ses habitudes. Alors, le corps peut aussi pousser le bouchon jusqu'à émettre des sons, ou alors se passer de la musique. Le corps peut pousser la chansonnette, ou alors il peut aussi mettre en route la musique, se faire le coup de l'égaiement quotidien. Il peut encore se le faire croire, mais ça ne dure pas. 5 minutes, à peine, moins de 5. 2 minutes, 2 malheureuses petites minutes à revenir à ses amours, revenir à une quelconque errance, aller dans un endroit connu pour se faire croire qu'on va se promener, qu'on part en voyage. Tout ça, c'est des mensonges. Le corps se ment, le corps veut plus rien, il fait obstacle au voyage, le corps bouge plus, il est comme mort, il est en vie mais mort. Tout ça, il n'y croit plus. À la chansonnette, au voyage, la balade au gré des sons, ce sont ses sons. Et tous les sons le dégoûtent le corps parce que jamais ça l'emmenait vraiment ailleurs. Et même si ça l'emmenait ailleurs, il a toujours fallu revenir. Revenir à son état de corps, c'est-à-dire à son état de bouchon. Un bouchon de cérumen que tout ce corps. Tout corps est un bouchon de cérumen. Tout corps est un obstacle à l'œuvre, à toute œuvre. Il n'y a pas un corps qui ne soit un obstacle à l'œuvre. Pas un individu formé d'un corps. Tous les individus sont des obstacles à l'œuvre. L'œuvre chantée, ou alors chantonnée, ou alors chantonnée pour mieux détruire l'œuvre, mais finalement l'annuler, annuler même l'idée du chantonnement. Tout chantonnement est une mise en bière de l'œuvre musicale, et tout individu formé d'un corps s'emploie de toute manière à foutre en l'air l'idée d'œuvre, quelle que soit l'œuvre, c'est-à-dire quelle que soit la chance qu'on porte au corps de se libérer. Toute chance est l'être morte pour le corps. Il n'y a pas de libération possible pour un corps. Il faut qu'il débarrasse le plancher pour laisser entrer l'air, la possibilité d'un air, la possibilité d'une œuvre qui rentrerait par l'air. Quel que soit l'air, le chant, quel que soit le chant, du moment que cet air arrive pour soit nouveau, du moment que cet air arrive pour tuer un corps, voilà ce qu'il faut, que l'œuvre nous débarrasse du corps une bonne fois. Plus d'individus. Un individu en moins égale une possibilité d'air. Une possibilité d'air. Il y a partout des impossibilités d'air. Et pourquoi il y a des impossibilités d'air? Parce qu'il y a des corps, et par-dessus le marché des corps, il y a des individus dedans. Des individus, c'est comme des bouchons. Ce sont des impossibilités d'air. Chaque individu est un empêchement à l'art au bout du compte. Alors au début, on pense que non. Au début, on pense que chaque individu est fait d'air, c'est-à-dire de possibilités, que tout est possible avec l'individu. Mais alors, on invente l'amour. Et l'amour, ça se chante. Les plus beaux chants sont des chants d'amour. Ou alors ce sont des chants de mort, mais c'est un peu la même chose. Dès qu'il y a mort, il y a possibilité amoureuse. Dès qu'il y a un corps qui s'en va, qui dégage de la piste, il y a une ouverture. Et donc, il y a de l'amour en préparation. L'amour, c'est la possibilité d'un air neuf. Mais l'air n'est jamais neuf. L'air est vicié dans l'amour. Il n'y a pas de possibilité du neuf. Il y a la possibilité, mais le neuf ne dure pas. Ce n'est pas dans sa vocation de durer. Le neuf meurt. Le neuf meurt plus vite que tout corps. Tout, plus vite que tout corps. Il n'y a pas. Toutes les possibilités sont venues mourir sur le corps. Toutes les possibilités ont formé au fur et à mesure du temps une boule, un bubon. Et ce fut le bubon des nouveautés. Et c'est ça après que le corps ne digère plus. Quand il réentend ses nouveautés, c'est comme s'il voyait le bubon de l'amour. L'amour tout neuf, tout nouvellement intégré sur la piste. C'est déjà pour lui un amour qui sent la mort. Il n'y a pas d'amour vrai, se dit alors l'individu qui a prise sur le corps. L'individu se dit qu'il n'y a que des emmerdements. Que tout vrai amour est une mise en bière pour soi-même, que tout amour vrai est un coup de vache contre soi-même. Et c'est comme ça qu'on renouvelle les corps. Par les coups foireux de l'amour, et par les coups de vache de l'art, de la musique notamment, qui sont de sales coups portés à l'existence. Des coups mortels portés aux individus. Et on a raison de porter des coups mortels à l'individu. Quel qu'il soit, même le plus grand des mélomanes est un individu, et donc un corps, et donc une possibilité de pourrissement. Seul le pourrissement est possible pour le corps. Pas la libération, pas la prise d'air. Aucune prise d'air n'est possible, même pour l'individu le plus amoureux, le plus mélomane, le plus artiste, le plus averti. En tout cas, il n'y a pas... Au bout du compte, il n'y a aucun individu averti au bout du compte dans le monde. Voilà, bah oui, seulement averti de son corps. Averti par son corps. Averti du pourrissement de l'être par lui. par le corps qu'il n'a pas désiré, mais qu'il aura, et qu'il finira par le mettre sous terre. Le corps mettra sous terre toute velléité d'ouverture, toute volonté de prendre le large. Le corps mettra sous clé toute envie de foutre le camp, de prendre la poudre d'escampette loin du corps pour chanter, pour se mesurer enfin à l'air, pour être enfin dans la pensée pure et dans l'air. Car l'air est la pensée pure. C'est ça qui nous fait mettre debout, nous, les individus. Mais tout de suite, tout est rassis. C'est comme un commandement. On commande à l'être de se rasseoir. Et se rasseoir, c'est épouser la forme de l'assise, c'est-à-dire du tombeau, c'est-à-dire comprendre enfin ses os, comprendre enfin le sol, comprendre enfin qu'il ne faut voir que ça et s'asseoir indéfiniment le cul dessus et ne plus bouger d'un iota, ne plus se mouvoir dans d'autres pensées que celle-là. Il faut sauver sa peau. Et sauver sa peau, c'est en finir une bonne fois avec l'illusion de l'individu. Car tout individu est une sorte de chantonnement, c'est-à-dire une sorte de balbutiement de ce que pourrait être un corps véritable. Ce n'est qu'un mâchouilli à l'œuvre. Il digère tout l'individu. Il digère tout ce qui se présente à lui et qui ferait œuvre. Tout ce qui se présente à lui comme salut, le salut à son corps, le seul et unique salut. Il fera tout pour le laisser passer. Et il chantonnera comme ça dans sa perte. C'est sa perte qu'il désire, l'individu. Le relâchement, il se relâche, il perd les pédales, il s'écrase sous le poids de la vie et donc il laisse passer toute possibilité de vivre autrement sa vie, son être. Il ne veut pas de l'être, il ne désire qu'une chose, son propre écrasement, sa solution écrasée, c'est son mouvement. Son mouvement, c'est d'aller se ratatiner quelque part, un jour ou l'autre, et plus tôt sera le mieux, c'est ça qui se dit l'individu. Tout individu est un coup porté à l'existence. Il n'y a pas d'existence possible avec un individu. Tout de suite, s'en sera fini de l'espérance. Tout de suite, les promesses s'effacent. Car c'est l'individu lui-même qui crée ses propres promesses, ses propres possibilités, pour ensuite les détruire. Il veut l'amour uniquement pour sa destruction et non pour son élévation. Il veut l'amour uniquement pour voir se ratatiner toute espérance d'être et de se relever. Il veut l'amour uniquement pour saper toute envie d'aimer. C'est ça qui désire, au bout du compte, tout individu normalement constitué. Et je ne parle pas des malades. Ce ne sont pas les malades qui sont en cause. La plupart du temps, les malades sont malades parce qu'ils ont pigé bien plus vite que l'individu lambda. L'individu lambda, lui, se presse à fourbir son outil de destruction généralisée. Et c'est pour ça que de tout temps, on a enfermé les malades qui voulaient la vie et qui se révoltaient, et parmi eux, quelques artistes, quelques-uns des artistes qu'on qualifie d'ailleurs de malades. Sur tous les points de la terre, il y a des artistes qui se séparent de la foule des individus, rien qu'en prononçant des phrases, rien qu'en chantant, ou rien qu'en criant, rien qu'en musiquant, rien qu'en écrivant, ou peignant, ou musiquant. Sur tout le globe, il y a des artistes comme ça, mais peu, trop peu, et trop vite malades, trop vite enfermés, et par leur propre individualisme, leur individualité individualiste. Et là, ils rejoignent le troupeau des individus. Le troupeau très sage qui va à un moment vous faire sauter dans le vide. Le troupeau des moutons de Panurge. L'humanité, c'est le troupeau de Panurge. Donc, il faut quitter le navire de l'humanité au plus vite. Ou alors, on se suicide. Ou alors, on va à fond dans l'art. On creuse. On ne fait plus que ça. On creuse jusqu'à plus soif. On creuse jusqu'à plus soif, jusqu'à devenir noir, jusqu'à devenir tout noir de vivre, jusqu'à voir la lumière noire de la mort et la coller à ses contemporains, jusqu'à voir la mort en face et s'en écarter, sauter en s'écartant, sauter de la mort de s'écarter de la mort de tout un chacun pour sauter dans la mort vraie. Et la seule mort vraie, c'est la mort pour le corps. La seule mort valable, c'est la mort du corps. C'est la mort de l'état de soi fait corps, c'est-à-dire absence. C'est en finir une bonne fois avec l'absence de soi noyée dans l'individu lambda.
Oula, non.
Des yeux.
Comme ça. J'ai pas beaucoup présenté au départ parce que parfois je le fais à la fin, mais là je pense que Cécile Duval, tu nous as dit un texte de Charles Pennequin,
ouais.
Et Françoise Révalan, tu nous as aussi dit des poèmes de La Perdis, mais aussi des choses que tu as faites toi-même tout à l'heure, des choses à toi, des improvisations. Et Caroline, qui a joué une pièce d'un Italien, Pisati, et ensuite une pièce que j'avais écrite qui s'appelle La Ritournelle et le Galop. Mais maintenant, est-ce qu'on va reprendre une parole, le cours d'une parole, par eux, est-ce qu'on peut aussi varier dans la parole celle qui se compose avec notre lecture, des mots plus sages. Est-ce que tu, Jean-Claude, as une chose à évoquer par rapport à certains points dans ce chapitre ?
Tu m'avais suggéré d'essayer de dire quelque chose sur le grasping. Tout à l'heure, j'ai relu le texte dans la journée, le sixième chapitre, et je me suis dit que peut-être grasping essaye de donner une figure visuelle et auditive en même temps, hein, si on imagine cela dit, ça a été dit par Olivier, justement une figure du grasping, c'est-à-dire dans quelque chose qui est un mouvement incessant entre deux pôles, mais très distants et qui s'intervertissent entre eux, hein. Il y a une fluidité extraordinaire des concepts, des mots, une polyphonie continue. Les mêmes mots réapparaissent, mais manifestement avec des sens dérivés ou légèrement différents à chaque fois. Donc il y a une sorte de processualité permanente, non axiologique, dans laquelle on cherche à repérer quelque chose. C'est-à-dire qu'on a véritablement dans le texte lui-même quelque chose qui donne forme à ma représentation, à moi, du grasping. Au départ, la notion de grasping, avant que Félix en empare, c'était un peu, par exemple, celle que Bowlby avait créée en parlant des nourrissons, la capacité qu'ils avaient, si on touchait la paume de leur main, de saisir immédiatement le doigt qui venait les chatouiller. Quoi. Et c'est quelque chose qui ne dure pas très longtemps, parce que si ça dure un petit peu trop longtemps, c'est qu'on est malade. Si ça réapparaît par exemple chez l'adulte, c'est qu'on a une maladie neurologique grave. Si on y tient tant que ça, à l'objet qu'on a, dont on s'est approprié, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas très bien dans l'architecture neurologique de l'individu. Mais chez Félix, on voit bien qu'il s'agit de tout autre chose, c'est-à-dire on ne peut en avoir qu'une sorte de représentation. En effet, le texte, il n'est pas simplement urticant, il est envoûtant aussi d'une certaine manière, et il est surtout, je dirais, labyrinthique, c'est-à-dire qu'on a l'impression que « Ah, ça y est, je crois avoir compris. » Ah non, pas du tout, c'est pas ça. On est reparti dans une autre direction. Il n'y a pas de fil d'Ariane là-dedans. Hein. À mon avis, il n'y en a pas. Sauf, peut-être, le grasping. Parce que le grasping suppose quelque chose qui ferait lien, malgré tout. Hein. Une communication, à un moment donné, très instantanée et très exceptionnelle, entre ce qui serait du côté d'eux, si on peut dire, du côté d'eux, du chaos, et du côté de la complexité. Et ça, ça m'a fait penser, on peut peut-être faire 3 ou 4 minutes de clinique, de clinique des psychoses, ça m'a fait penser à ce qui se faisait à la Borde. Quand je suis arrivé à la Borde, pour moi, c'était une clinique où on faisait de la psychanalyse et de la psychothérapie. Et une des premières choses que j'ai vues et auxquelles j'ai participé, c'est à une pratique de coma insulinique. C'était assez frappant. C'est-à-dire, on injecte de l'insuline à un patient, en fait c'était plusieurs en même temps dans le même endroit, et comme leur glycémie tombe très très bas, ils font un coma, hypoglycémique comme on dit, et puis ils dorment quelque temps comme ça, enfin on peut appeler ça dormir, c'est pas un sommeil, hein. Il n'est pas sûr du tout qu'il y ait du rêve là-dedans ou qu'il y ait les mécanismes électriques du sommeil, c'est un coma, c'est un vrai coma. Si on n'intervient pas, on en meurt de ça. Et au bout de quelques temps, donc, on réinjecte du sucre par voie intraveineuse et la personne se réveille. Je me suis dit, il y a peut-être là, à l'époque, une tentative de renouer une expérience qui serait tout à fait au fondement de la psychose, qui est celle que décrit Toscaïès dans sa thèse, qui est cette catastrophe de fin du monde, hein, qui marque le début, souvent l'entrée dans la schizophrénie, par exemple. Dans le coma, un peu comme des apprentis sorciers, hein, on va faire plonger quelqu'un pas très loin de la mort. Hein. Le coma, c'est ce qui précède, effectivement, l'extinction absolue. Et on le ramène à la vie, et là, il y a un moment qui est peut-être le moment du grasping. C'est-à-dire un moment d'émergence où le premier vécu supposé par nous de la personne qui sort du coma est un vécu totalement chaosmique, hein, avec quantité de mouvements, de vitesse, mais toutes sortes de choses, de sensations et d'affects qui concernent un monde totalement dépourvu de repères spatio-temporels, énergétiques, comme le dit Félix. Hein, c'est-à-dire un monde non coordonné, non cartographiable, d'une certaine manière. Quand même, ce qui différencie la chaosmose des cartographies schizoanalytiques, c'est qu'on va un pas plus loin dans l'impossibilité de plaquer une structure, hein, un quadrillage, strier cette espèce d'expérience épouvantable et à la fois infiniment fascinante, hein, du chaos. Et au moment du réveil, il y a cette chose assez extraordinaire dans le coma insulinique, il y a une espèce de bredouillage, une novlangue un peu comparable, un peu à ce que tu faisais tout à l'heure. On entend des choses comme ça, des borborygmes, des bruits, parfois des bruits du corps aussi, hein, parce qu'on peut se réveiller en pétant et en rotant. Hein. Et puis, il y a quelques mots qui apparaissent, et puis petit à petit, une prise, alors c'est ça peut-être le grasping, c'est cette possibilité d'attraper, de s'approprier, ne serait-ce que fugacement, l'environnement, on pourrait dire, hein, l'écosystème qui est là autour du patient. Et puis, après, on passe à des formes beaucoup plus élaborées, qui plonge dans une mémoire du patient. Et je vous rappelle toujours un de ces patients qui, toujours à un moment, c'est-à-dire environ 10 minutes après cette première phase très très brouillée, très indiscernable, comme ça, très chaotique, donc, je suis obligé de poser le micro pour mimer ce qu'il faisait. Donc, il se redressait comme ça dans le lit, il s'asseyait, et puis il faisait ce geste-là. Il prenait dans son dos une flèche dans son carquois, hein, et puis il faisait ça, et puis il disait Robin Hood dans la forêt de Sherwood. Et alors là, on pouvait lui donner du café au lait sucré, etc. Il pouvait se lever après avoir dit ça. Donc il y avait une espèce de moment comme ça. Le grasping se terminait sur une banalité terrible, hein, sur un mythe réduit. C'est un retour, hein, à la mémoire culturelle, on pourrait dire, et à son héros favori. Hein. Il y en avait d'autres, mais enfin celui-là, c'était vraiment le mieux. Donc j'ai eu un peu cette impression-là en parlant de ça. J'avais parlé l'autre fois aussi de façon peut-être un petit peu provocatrice, donc il y avait Isabelle Stengers là, de l'électrochoc. Mm-hmm. C'est quand même très extraordinaire qu'on puisse à la fois exprimer la chaosmose comme le fait Félix, et en même temps être tout à fait prêt à entrer dans cette combinatoire, on pourrait dire, d'une approche philosophico-esthétique, on pourrait dire, et des neurosciences. Ou de la biologie, c'est-à-dire essayer de donner une forme malgré tout à cette plongée chaotique, et considérer par ailleurs que si cette plongée ne se fait pas, il y a des impossibilités thérapeutiques, et qu'il faut être passé peut-être par ce moment de grasping pour pouvoir ensuite structurer, construire une image du corps qui tourne le cou. Hein, je reviens au corps puisqu'on en a beaucoup parlé là. Le corps a été beaucoup dit, il n'a pas été beaucoup montré, hein, aujourd'hui. Il n'y a pas eu de danse et pas de gestes, pas beaucoup en tout cas. Mais on voit bien que ce travail doit être précédé à un moment donné par la possibilité de réarticuler, ne serait-ce que momentanément, ce monde totalement non discursif avec un minimum de discursivité qui permet de vivre là avec les autres, simplement, hein, de rentrer en échange avec. Voilà, parce que je veux dire, j'ai dû oublier des choses. Mais...
Je veux bien rebondir très rapidement. C'est intéressant ce que tu dis, Jean-Claude, du grasping avec le geste du petit enfant, et puis tel que c'est utilisé là dans Chaosmos, le grasping existentiel, c'est une sorte de, c'est un pli en réalité, c'est une mise en pince. C'est exactement comme ça qu'ils définissent aussi la schize dans l'anti-Oedipe. La schize non pas comme un arrêt, mais comme une confluence, non pas comme la fin de quelque chose, mais comme un carrefour. Et c'est cette pensée de la coupure. La coupure n'est pas quelque chose qui termine, mais quelque chose qui, au contraire, c'est une nouvelle pensée de la limite. La limite n'est pas au bout d'un truc, la limite est justement ce qui permet de faire émerger. C'est une pensée très très nouvelle. La limite n'est pas à la fin de quelque chose, c'est au contraire, processuellement, ce qui crée, pour expliquer ça, je prends toujours l'exemple de la frontière. On peut penser que la frontière, c'est la fin de la France. Pensons à la frontière entre la France et l'Allemagne. On peut penser que la frontière est là où la France s'arrête, mais vous voyez bien que c'est le contraire. S'il n'y avait pas de frontière, il n'y aurait pas de France, il n'y aurait pas d'Allemagne. C'est la frontière qui est individualisante. C'est la coupure qui crée du corps, de l'individu, comme tu l'as très bien dit avec les mots, un sac d'individualité, mais qui préhende, c'est-à-dire qui qui est un carrefour existentiel. Alors je crois que cette manière de penser, ce type de philosophie est en rapport vraiment immédiat, étroit, naturel, matériel avec les neurosciences, parce que c'est exactement ce qui se passe aussi dans le cerveau. C'est comme ça qu'on pense, entre dans le trou, dans le saut synaptique entre les neurones. Il y a un rapport très fort entre cette épistémologie clinique du grasping existentiel et puis la manière que nous avons aujourd'hui de penser, de modéliser le cerveau. Et entre les neurosciences et la clinique contemporaine, celle de Laborde, celle de Tosquelles, d'Oury, de Félix et compagnie. Et la physique contemporaine, la physique quantique, une physique aussi du saut, du trou, du discontinu, de la coupure. Il y a une nouvelle épistémologie qui est celle que Guattari appelle justement esthétique. Alors, au sens où c'est une épistémologie, enfin je veux dire c'est un modèle théorique de connaissance où la connaissance elle est grasping aussi. Et ce grasping c'est ça le modèle de la chaosmose, hein, Anne, tu ne penses pas ? Il me semble. L'idée de la chaosmose c'est ce côté bouquet, ce que Whitehead appelle l'appréhension. Ce que Deleuze, dans Différence et répétition, quand il parle, vous savez qu'il reprend la belle formule de Samuel Butler et qu'il dit qu'un épi de froment, qu'est-ce que c'est qu'un épi de froment ? Un épi de froment, qu'est-ce que c'est ? Est-ce que c'est un individu ? Il dit non, c'est un carrefour de force. C'est quelque chose qui préhende l'azote et le fer de la terre avec l'ensemble de l'atmosphère, de l'eau, etc. C'est quelque chose qui est un nœud entre des forces extérieures. Et nous, tous, nous sommes de tels nœuds, entre des forces extérieures. Ça, c'est le grasping. C'est-à-dire, ton corps, il est ce nœud, tant que ça dure, de choses à l'extérieur. C'est valable pour les individus, hein ? C'est valable, non ?
Donnez-moi une sorte de forme de grasping existentiel et d'articulation corporelle, je ne sais pas quoi. Enfin, donc, le grasping n'est pas au. Enfin, je sais pas, pas seulement individuel, mais aussi pas. L'interaction entre les choses se passe justement par l'événement, la coupure, etc. Mais c'est pas le grasping qui fait l'événement.
Et alors ces univers incorporels
quoi de... Madame, non.
Bon, Madame, non, d'accord. Quelqu'un d'autre. Moi, je n'aime pas avec les micros aujourd'hui. Souvent, d'ailleurs. Moi, j'ai remarqué entre les moments, les moments qui font point, les moments qui sont des vitesses, les pertes de vitesse, les vitesses donc négatives, enfin les pôles positifs, négatifs, etc. J'ai remarqué comment à certains moments, il y a quelques phrases qui sont assez éclairantes, d'ailleurs c'est fréquent, mais c'est toujours... Comment on arrive à les mettre en relation, comment on arrive à les attraper, c'est encore un peu de grasping là aussi. Et donc, dans quelque chose qui n'est pas trop morcelé, qui n'est pas trop défait, qui peut être donc trop résonnant, puisque dès que quelque chose s'installe, on a aussi un risque par ailleurs, je relevais comment le truc qui marche, c'est quand même ce qui devient circulant, c'est ce qui circule, c'est ce qui devient polyphonique, c'est ce qui acquiert quand même une variabilité, une hétérogénéité, voilà. Et donc, ce moment-là, c'est quand même un moment qui s'oppose au cloisonné et qui relève de la résonance, qui relève d'un modèle un peu vibratoire, hein. J'ai relevé ça parce que j'ai trouvé que c'était étonnant qu'à certains moments extrêmement abstraits, il y ait quelque chose d'aussi simple que rétablir l'idée de fluidité, de réversibilité, mais pas dans des variations d'extrémum, mais quand même dans des points où quelque chose se ralentit un peu, se constitue avec du petit, avec du fini, c'est-à-dire qu'au milieu ce grand chaos Moi, je ne pense pas que l'acaosmos soit si proche du chaos. Je pense qu'au contraire, l'intention de l'acaosmos, c'est de parler du contraire. C'est de parler vraiment du point d'accroche et du point de, non pas de stabilisation, mais du point de petite variation qui met le possible, non pas dans sa confrontation permanente avec ce qu'il ne peut pas être, ou ce qu'il ne peut pas faire, ou ce qu'il ne peut pas devenir, mais au contraire avec un tout petit processus qui arrête cet infini, qui arrête cette vitesse comme ça déboussolante. Et chaosmos est un mot sur lequel je crois que on peut se laisser emporter par l'aspect du texte qui est comme une tendance à avalanche, alors qu'en fait ça parle au moins autant de ces petits points de cristallisation et de très fragiles et qui rejoignent ce que tu disais, Jean-Claude. En même temps, ça on le dit peut-être depuis le début, on le relit dans tous les chapitres, c'est présent sans arrêt, donc qu'est-ce qui avance? Pourtant chaque chapitre avance bel et bien, et on a du mal à le saisir en fait, ou à le dire, où on ne s'est pas donné, on ne s'est pas imposé le fait d'analyser, de synthétiser, on le fera peut-être après, on le fera à la fin de la lecture, on aura envie de se retourner sur les chapitres et de relire comment le paysage s'est modifié en cours de route. Et il me semble que là, dans ce chapitre, il y a donc une idée qui se forme bien plus que dans les chapitres précédents, qui est ce proto-esthétique qui n'appartient pas spécialement aux artistes, mais qui quand même fait appel à un certain rapport aux ancrages, comme ça, aux points de cristallisation, et qui deviennent porteurs de quelque chose donc, de beaucoup plus emprise avec quelque chose de bien plus large que la peur de vivre ou la peur de mourir ou des choses limitantes, c'est-à-dire que avec des choses très faibles, il y a une association beaucoup plus harmonieuse de ce qui est pluriel, de ce qui est circulant par rapport à l'altérité. Et là, moi, je crois qu'il faut aussi pouvoir parler de ces choses, d'une façon plus calme, quoi. Voilà. Je trouve que dans Chaosmos, il y a des choses qui nous obligent à ne pas être à un seul endroit à la fois. Et en même temps, pour autant, je crois qu'on doit aussi parler des choses qui sont en jeu et qui sont politiquement de restituer ces données du sensible dans de l'action possible qui, elle, va se à la racine du sensible, comme Félix nous dit, préparer le dernier chapitre qui est celui de l'écosophie, qui va donc concerner des pratiques réelles, de terrain, où on n'est pas dans le... Voilà.
C'est ce que tu dis, Pascal, il le définit, point de négociation entre complexité et chaos. Bon, voilà. Page 154. Point de négociation. Il y a bien une idée de négociation. Négociation, c'est le titre anglais pour parler de Deleuze. Dans négociation, il ne faut pas penser deux parties qui essaient de s'entendre, il faut penser processus. Puisque tu demandes qu'est-ce qui se passe dans ce chapitre-là, ben, il se passe un truc très simple. Il se passe un truc que c'est au chapitre 6, pour ce moment, qu'on dit, voilà, depuis le début, on essaye de vous donner une certaine méthode, enfin, on essaye d'avancer dans une méthode, une nouvelle philosophie, enfin, une méthode, c'est-à-dire un truc pour penser le réel. Et cette méthode, eh ben, elle est nouvelle. Et elle fait appel à un nouveau paradigme, et ce paradigme esthétique. Donc, le chapitre dit littéralement ce qu'il dit, à savoir, depuis le début, c'est quoi ? De quoi qu'on cause ? Ben, on cause d'un certain monde, qui n'est pas un monde du donné, du figé. On parle d'un monde, alors avec des nouveaux concepts, en effet, bizarres, inattendus, mais rigoureux, explicables, les territoires existentiels, les univers incorporels, les phylums machiniques, les fruits. Bon, on a un univers comme ça avec ces quatre objets, et ces quatre objets, ils sont, c'est pas les quatre coins de la pièce, c'est pas le nord, le sud, l'est et l'ouest, ils sont pas distincts et dissociés, ils doivent être pris ensemble, ils doivent être diagrammatisés. Et la cosmos ou le grasping, c'est cet effet-là. Donc, négociation entre l'infini et la complexité, entre le chaos et la complexité, c'est-à-dire point d'émergence. Donc, à la question où est, par rapport aux cartographies schizoanalytiques, où est ce livre-là, bah, un tout petit peu, un rien avant le moment cartographique. C'est-à-dire, en réalité, ou alors après, oui.
Et en relation avec qu'est-ce que la philosophie ? C'est-à-dire que, par exemple, enfin, moi, je trouve qu'il y a une espèce quand même de, sur le paradigme esthétique tel qu'on l'emploie là, il me semble qu'il y a quelque chose qui est collé, c'est-à-dire qu'il dit dans la puissance esthétique de sentir, la puissance de la pensée, penser philosophiquement, connaître scientifiquement, agir politiquement. On a quatre champs et il s'agit de faire une puissance de création en articulant les champs. Certains vont le faire, et au fond l'idée de tout le chapitre, c'est que au jour d'aujourd'hui, c'est dans l'esthétique que cette articulation semble la plus possible, alors que dans le champ politique, elle s'est pété la gueule plus ou moins, ou enfin, il y a quelque chose comme ça. Enfin, moi, je le lis comme ça. Mais ce que je trouve, c'est que du coup, il faut distinguer quelque part l'esthétique, la puissance de sentir, les univers musicaux, peinture, enfin, etc., etc., de la puissance créative machinique qui tisse et tresse tout ça. Bon. Et qu'on a tendance, entre nous, à coller les deux trucs.
Ouais. Moi, je comprends ce que tu dis. Ah, pardon, c'est mieux que... Non, vas-y. Je t'en prie. Bon. Vas-y,
je voudrais intervenir. Je ne fais pas partie du réseau de Chimère, mais je suis un vieil ami de Jean-Claude et de Anne, et donc je reprends ce que vient de dire Anne. Est-ce que dans la lecture, vous avez lu le passage ou les questions de Pascal ?
Oui.
Alors, j'aimerais bien...
Les pensées de Pascal.
Comment ?
Les pensées de Pascal ou de la musique de Pascal ? 151.
Non.
153. Pas 153.
Il est rare que Félix cite Pascal, hein, franchement, j'ai jamais entendu parler de Pascal. Alors, comment associer le caractère définitif, caractère infini non discursif de la texture de ces incorporels et la finitude discursive des flux énergético-spatio-temporels et leur corrélat propositionnel? Pascal nous indique une direction dans sa réponse à la question. Croyez-vous impossible que Dieu soit infini et sans partie? Oui, je veux donc faire voir une chose infinie et indivisible. C'est un point se mouvant partout d'une vitesse infinie, car il est en tout lieu et en tout entier, en chaque endroit. C'est la phrase clé pour moi. C'est un point se mouvant partout d'une vitesse infinie, qu'il est en tout lieu et tout entier, en chaque endroit.
Ça m'a fait penser
à une dimension dont il est pas mal question dans Cosmos, c'est la fractalité. Mm-hmm. C'est-à-dire, fractalité, moi je la comprends comme ça, c'est une forme qui se reproduit, quelle que soit l'échelle, qui se reproduit à l'infiniment petit comme à l'infiniment grand. Et il me semble que Cosmos, c'est un peu ça. Alors là, je fais état d'une discussion que j'ai eue, mais si elle bavarde tout le temps, je ne vais pas y arriver. J'avais une discussion que j'ai eue avec... un échange plutôt que lui avec Anne, au sujet du mot cosmos, d'où ça vient. C'est pas la chaos. Hein, ça, vraiment, c'est absolument pas le chaos. C'est la cosmos, je les vois, moi, comme un mot vert. On appelle ça un oxymoron, c'est un mot qui signifie à la fois une chose et son contraire. Essentiellement, je le dis comme ça, on peut le voir autrement, mais dans l'échange que je vis avec Anne, j'ai exclu l'idée que cosmos évoque l'idée d'osmose. Et elle m'a répondu que pour elle, c'était pour la développer ce point, tu ne développes pas éventuellement. Pour moi, c'est un oxymoron, c'est-à-dire un mot qui signifie à la fois une chose et son contraire, parce que c'est chaos plus cosmos. Le mot cosmos n'est jamais utilisé dans cosmos, pas une seule fois. Par contre, cosmos apparaît deux fois, et une deuxième fois en relation avec... Je dis ça pour me justifier, parce que vis-à-vis de Hans, c'est comme énorme. Cosmos apparaît une fois en relation avec la complexion, c'est-à-dire la complexité. En fait, le mot cosmos disparaît et réapparaît sous le mot de complexité. Le lien, c'est complexité-chaos, tout le temps, sans arrêt, notamment dans ce chapitre. Alors, ce que je voudrais dire ici, c'est qu'il cherche un mot qui signifie, c'est comme ça que j'ai compris, qui signifie à la fois une chose et son contraire, qui signifie à la fois le chaos et le cosmos. Dans la, comment on appelle ça, dans la mythologie grecque, au commencement était le chaos, c'est-à-dire une béance. C'est comme ça qu'on traduit le mot chaos. Ben, c'est pas le désordre, c'est une béance. Je ne sais pas exactement ce que c'est une béance, un trou, quoi. Voilà. Et le monde apparaît, surgit de cette béance. Mais quel monde? C'est le monde, ce cosmos ne veut pas seulement dire le monde, l'univers, comme nous on l'emploie. Il veut dire le monde bien ordonné. Cosmos, c'est le monde bien ordonné. C'est-à-dire l'ordre sort de l'absence d'ordre. Donc là aussi, le mot entropie et négentropie est forcément pas mal utilisé dans cosmos. C'est toujours en résonance avec cette opposition entre le chaos et le cosmos. Mais c'est justement pas une opposition. Moi, je sens cosmos, un effort fantastique de Félix pour essayer de penser les contraires en même temps. D'ailleurs, dans le même passage, j'étais frappé par une chose, il fait allusion au principe de non-contradiction. Voilà, j'ai trouvé. Juste après Pascal, d'ailleurs, je ne vais pas vous lire tout le paragraphe, mais enfin, il s'agit de donner créance et consistance au terme contradictoire d'une même proposition. C'est exactement le cas de cosmos. Alors, pourquoi il n'a pas dit chaosmos et seulement chaosmos? Ça, c'est ses oignons. Bon, j'ai fait un papier là-dessus en me disant, je suis posé la question quand j'ai pris de l'autre côté du Styx, parce que là, là où il y a... Le Styx, c'est le fleuve qui... On est amené par le Charon, je crois, dans l'univers des morts. J'ai retrouvé Félix, je lui ai tapé sur l'épaule. Donc, Félix, pourquoi tu as choisi Cosmos? Ça m'amuse beaucoup, cette idée. Il me répond, mais tu comprends rien, comme d'habitude. Il m'a toujours dit, tu comprends rien du tout. Bon. Mais c'est vrai, ça, j'y tiens pas mal à cette idée, parce que c'est une vitesse infinie, une vitesse infinie entre le chaos et le cosmos, comme si, au fond, cosmos et chaos disaient la même chose, alors que c'est radicalement contradictoire. C'est très difficile à exprimer, ça. Je ne pense pas que c'est simplement un oxymoron. Il ne s'est pas amusé à faire un oxymoron, parce que c'est du bluff, c'est de la poudre aux yeux. Je pense profondément, je sens une espèce d'inquiétude, un truc qui le tenaille, littéralement, qui le tenaille, qu'il essaie d'exprimer par ce mot « chaos plus cosmos égale chaosmos ». Mais il l'a féminisé, ça, je ne sais pas pourquoi. Voilà, je voulais dire ça. Ben non, je ne sais pas pourquoi. C'est très beau. Moi, j'aime beaucoup Cosmos. Je pense qu'il a... J'écrivais à Anne et à quelques autres, je crois, qu'il a diffusé. C'est il l'a féminisé. Parce que c'est comme le yin et le yang. L'ordre du monde, tel qu'il naît à partir du chaos, il est le fait des dieux, et notamment du roi des dieux. Le roi des dieux, c'est Zeus. C'est un baiser incroyable. C'est vraiment la virilité. C'est la virilité à l'état pur. C'est le yang. C'est un principe yang. Alors qu'il a voulu, je crois, féminiser le chaos plus cosmos en le mélangeant. C'est exactement la même chose. Toujours pensez là, le yin et yang à la fois. Le yin, principe féminin. Je ne vais pas vous développer là-dessus. C'est intéressant. Et le yang, principe masculin. Alors, il a tout mélangé, parce qu'il cherche quelque chose, et c'est pour moi le secret du mot cosmos. Voilà, je le vis comme ça, je le mets soumis sagesse. Voilà, à votre sagesse. Moi, ça me plaît beaucoup, c'est une idée qui me plaît beaucoup. Voilà.
C'est quoi ce cosmos féminisé, franchement? Alors... Regarde, il dit, page 156, la chaosmose n'oscille donc pas mécaniquement entre zéro et infini. Donc comprendre, la chaosmose, c'est pas un milieu entre horriblement chaos et joliment cosmos.
En plus, n'oublions pas que le cosmos dont tu parles, le cosmos mythologico-gréco, n'est vraiment pas du tout le cosmos, à mon avis, dont Félix nous entretient. Regarde, il dit, la chaosmos n'oscille donc pas mécaniquement entre zéro et infini, yin et yang, vide et plein, noir et blanc, femelle et mâle. Donc, n'oscille pas entre zéro et infini, être et néant. Ordre et désordre. Elle rebondit. Elle rebondit, elle bourgeonne. Elle bourgeonne, elle rebondit. Elle rebondit, elle bourgeonne sur des états de choses, des corps, des foyers autopoïétiques. Alors, ça, d'ailleurs, c'est pas très que c'est autopoïétique, c'est un truc qui se développe tout seul. Bon, c'est tout. Donc, des machins autopoïétiques qu'elle utilise. Ah, elle les utilise à titre de support. Donc, elle gambade et elle rebondit, comme dans un jeu vidéo. Sur des espèces de supports. Et comment est-ce qu'elle les utilise, ces supports? Ah, elle les utilise à titre de support de déterritorialisation. Elle est chaotisation relative. Bah, relative, parce que si c'est absolu, bah, on ne s'y retrouverait plus du tout. Hein, chaotisation relative à travers la confrontation d'états hétérogènes. État hétérogène de la complexité. Parce que s'il y a de la complexité, elle est hétérogène. Mais s'il n'y avait pas d'état, on ne pourrait pas saisir qu'elle est complexe. Mais si elle n'était pas hétérogène, elle ne serait pas complexe. Donc il y a des états, ils sont hétérogènes, ils sont complexes. Et la chaosmos, ce n'est pas zéro infini, c'est elle rebondit et bourgeonne sur les états de choses et elle les utilise à titre de support, de déterritorialisation, parce que les trucs sont complexes. Et si elle les utilisait à titre de support de territorialisation, ben ça c'est un truc, on connaît ça très bien, mais tout le monde a toujours fait ça, c'est la structure qui fait ça. La structure dit j'ai du complexe, sur la table c'est vachement complexe, il y a un bouquin, il y a un truc, il y a un machin, il y a mon téléphone portable et cette magnifique chose jaune, et je vais expliquer ça en territorialisant sur une structure. Ben justement, Félix y propose d'expliquer ça en déterritorialisant sur une machine. Donc c'est un nouveau type de pensée, déterritorialisant. Et ensuite, il dit, regardez, la chaosmos n'oscille pas entre zéro et infini, entre être et néant. Elle rebondit. On a ici affaire à un infini d'entités virtuelles, bon, très riches. Bon, mais c'est pas seulement qu'elles sont riches, c'est qu'elles sont enrichissables. Elles vont se transformer, si ça marche. Et sinon, on va s'ennuyer à nouveau. Bon. Infinie d'entité virtuelle, infiniment riche de possible, infiniment enrichissable à partir de processus créateur. C'est une tension. Voilà, c'est tout. C'est une tension. Hein. La chaosmos, c'est une tension pour saisir la potentialité créative à la racine de la finitude sensible. C'est-à-dire, tout ça, ça marche parce qu'on n'est pas tout. On est quelque chose, et dans ce quelque chose, on est des finitudes. On est des finitudes relativement sensibles. Hein. Si je te pince, tu crierais peut-être. Des finitudes sensibles, et c'est dans cette finitude sensible que ça rebondit. Et c'est là où ça rebondit que ça pense. Et ça pense comme ça. Voilà. Donc ça pense pas entre zéro et infini. Donc la cosmos, elle n'est pas dans une pensée de l'union des contradictoires. Non. C'est ni pré-socratique, ni le yin et le yang, et puis on n'est pas dans un univers scindé, dualiste, mâle, femelle, chaos, cosmos. On est dans la tension.
Voilà. Justement, c'est ce qu'il faut absolument éviter, c'est d'entrer dans le dualisme. Oui, c'est ça. Pas 100 ans et plusieurs fois dénoncer les dualismes, il y en a plusieurs dedans, il y en a plein, mais il le résout pour indiquer là où il va. Tu refuses de dire que c'est l'union des contraires, mais c'est quand même quelque chose de ce genre. Par exemple, le même page 158, la même page, vous allez avoir une discussion, ce que j'appelle une discussion de Brahman, vous savez, les Brahmanes discutaient sur l'être et le néant pendant des heures et des heures. C'est le roi qui tranchait, le roi devant lequel la discussion avait lieu, qui tranche en disant c'est lui qui a raison, c'est lui qui a vaincu. Donc je ne suis pas dans une bagarre du tout, Anne. C'est juste pour dire, par exemple, le mot être-non-être. Page 158, page 154, c'est le premier pliage cosmique, gna. Un même être non-être. Alors voilà, il invente un mot qui veut dire tout et le contraire de tout. Un être-non-être. Alors si c'est pas l'union des contraires, c'est...
C'est parce qu'il s'est trompé, là, il a écrit. C'est tout. C'est une faute d'infrappe. à mon avis, c'est l'éditeur qui a rajouté un petit machin. Je crois que c'est dans ton exemplaire seulement, moi je le trouve pas. Tu nous as parlé du brahman, alors Anne, on voit bien ce qu'il sait, mais qui c'est qui brame? Non, c'est une vraie question, mais je pense pas, parce que si tu veux, regarde, si tu as union des contradictoires, tu as des contradictoires. Tout le principe de cette pensée-là, c'est que tu n'as pas... La relation s'établit... C'est la relation qui crée les termes. Hein? C'est le passage. Donc tu n'as pas deux trucs, et puis... Je ne t'en dors pas encore.
Pendant quelque chose qui fait allusion manifestement à l'existentialisme sartrien, hein, où il dit l'existence, c'est pas dire le processus, l'inter-être précède de beaucoup l'être et le produit. Non, non, mais c'est. Je reprends quelque chose qui dit au début de ce chapitre-là, il fait rapidement allusion à l'existentiel, oui. Mais auquel il donne une connotation existentialiste, au sens approprié du terme, parce qu'il répète d'une façon très raccourcie mais très nette que c'est le processus qui précède en quelque sorte. Alors, précéder, ça ne veut pas dire grand-chose, mais en tout cas, il est avant l'être, justement.
L'existence,
c'est l'existence. Oui. C'est l'existence qui produit l'être, mais de ce point de vue-là, il n'est pas très loin de Sartre, en effet. Mais il donne cette dimension-là, et Dieu serait la matière, tout simplement. Donc elle est effectivement partout, et sur un mode processuel.
Tout,
Sans coule, blessure, fraîche à son bras, le sang coule. De sa blessure, fraîche à son bras, le sang coule. Bras, au bras, sans ton bras, blessant au bras. Se blessant au bras, bon, un bon, faisant un bon, faisant un bon, l'en faisant un bon, se l'en faisant un bon, et à se l'en faisant un bon, casquette à se l'en faisant un bon, le casquette à se l'en faisant un bon, sans les casquettes à se l'en faisant un bon, saisissant les casquettes à se l'en faisant un bon, saisissant les casquettes à se l'en faisant un bon, se blessant au bras, j'y sais saisissant le casquette à se l'en faisant un bon, se blessant au bras. Avant 10 heures autour du cadavre, ils étaient déjà répartis tout le long de la course des deux côtés au corps à corps. Les seules actions visibles avaient lieu à la ligne de part arrivée ou de temps en temps, chargeant son jus, saisissant les casquettes à se l'en faisant un bon, se blessant au bras, à tout blanc de nuages, de poussière et descendre en titulant de sa mécolique qui t'entretient sa presse en pierre des seins sans te relancer sur la piste à vainqueur, où t'as trouvé de sa mission faite sur son bras, le sang coule immense qui s'élève. Avant 10 heures autour du cadavre, ils étaient déjà répartis tout le long de la cour des deux corps, des deux côtés au corps à corps. Les seules actions visibles avaient lieu à la ligne de part arrivée ou de temps en temps, chargeant son jus, saisissant les casquettes à se l'en faisant un bon, se blessant au bras, à tout blanc de nuages, de poussière et descendre en titulant de sa mécolique qui t'entretient sa presse en pierre des seins sans te relancer sur la piste avec un retard tout frais dessus de sa blessure faite sur son bras, le sang coule immense qui s'élève. Tombe, tombe, les reins s'enfoncent au creux de la cuirasse, doy, plongé dans les entrailles, car, pour gagner de fuir ses cuits, tag. Ils font résonner terriblement, pour gagner de folie brutale. Ils font résonner terriblement le bronze autour de leur poitrine. Il en sort à son noir qui lave ta l'eau tienne. Flattant son pocket d'un cas.
Il y a un proverbe que tu dois dire, Pascal.
Ah, je peux pas le dire aussi vite que toi.
Pourquoi c'est pas, t'es pas censé, c'est un proverbe.
Ah, tu veux dire, il y a un proverbe.
Pour finir.
Voilà, mais après ce que tu as fait, ça va être l'exposition même de la, du ralentissement.
Je ne sais pas si c'est une très bonne idée, mais elle m'a donné une chose à faire, mais j'avais oublié complètement. Non, tu peux pas me faire faire ça.
Et...
ciel, l'âme, roulardie, elle flamule, aïe, elle l'âme, bourle, accrue, arbru, flamiel, art, cru, brûle, or, flamme, à ciel, art, brûle.